Du lundi 10 au mercredi 12 février 2003, panne physique. Nous voyons rouler un passant s'exclame en riant. Je dois me mélanger les pédales. Vous êtes 4 sur 2 vélos ? 4 mains se lèvent du guidon. Nous le saluons. Franck a de moins en moins d'énergie. J'ai beau essayer de le motiver pour qu'il donne le meilleur de lui-même, je le sens résigné. Il ne répond plus à mes encouragements. Je n'ai pas besoin de me retourner. Je le sens dans les pédales. Moi-même, je ne me sens pas très bien non plus. Pas pour les mêmes raisons. Vidé par ma diarrhée, je n'arrive plus à compenser la fatigue de Franck. Nous décidons d'alterner les copilotes. Cette fois, c'est Loukman qui me pousse, qui m'encourage. Je me sens de plus en plus faible. Une pancarte en bord de route indique « centre de soins ». Nous nous y arrêtons. Personne à l'intérieur. Un villageois passe non loin. « Et savez-vous où est le docteur ? Je vais vous le chercher. » Une demi-heure plus tard, un homme arrive, nous salue de loin et entre dans le centre. Il en ressort habillé d'une blouse blanche. « Que puis-je pour vous ?» Je m'approche et lui explique mon problème. « Je vais aux toilettes entre 10 et 15 fois par jour depuis 2 mois. Je pensais que c'était une diarrhée. Malheureusement, les antidiarrhéiques ne font plus d'effet et je ne peux plus manger depuis quelques jours. » « Pouvez-vous m'examiner ?» Loukman insiste auprès de lui. « Il faut faire quelque chose, sinon nous ne pourrons pas poursuivre notre tour du Bénin en tandem. » Le docteur nous fait rentrer dans le centre de soins. Je décris à Loukman. « Ce sont 3 pièces vides, habitées par des microparticules, la poussière. Ils ne doivent pas recevoir beaucoup de patients ici. » Devant nous, il ouvre une armoire. Des cartons y sont entassés. Il en sort un. Il l'ouvre. À l'intérieur, quelques dizaines de sachets en plastique. Il se retourne vers moi. Je sais ce que vous avez. Une amibiase. Ce sont des parasites qui se sont développés dans votre estomac. C'est fréquent dans la région. Il existe un traitement efficace. Tenez, prenez ce sachet. Prenez 2 cachets matin, midi et soir pendant une semaine. Vous devriez aller mieux rapidement. Je tiens dans mes mains un sachet en plastique poussiéreux, rempli de cachets blancs. Je peux lire « Flagile », mention manuscrite sur une étiquette collée. Loukman touche le sachet. « Ce sont des médicaments génériques. Ainsi, tu n'achètes que la quantité dont tu as besoin. Le flagile est le seul traitement que je connaisse contre les amibiases. » La consultation est rapide et efficace. J'avale tout rond les pilules. Loukman remet ses pieds dans les cale-pieds. Clic. Mes chaussures s'enclenchent dans les pédales automatiques. Cyrano et Noisette repartent. La prochaine fois que l'on rencontre un fétiche, je lui demanderai de me protéger contre ces amibes qui me pompent mon carburant. Franck demande de plus en plus souvent à Jean-Christophe de faire une pause. Il est devenu tout mou et parle peu. Loukman s'énerve. « Franck, il faut avancer, tu nous ralentis. Diego est malade, il pédale quand même. Je ne peux pas. » J'essaye de calmer Loukman. Jean-Christophe essaye de discuter avec Franck. « Es-tu malade ?»« Je ne sais pas. »« Tu as mal quelque part ?» Ici, il indique ses fesses. « Oui, ça c'est normal. Tu n'es pas le premier à souffrir de la selle. Encore quelques jours, et tu t'y habitueras. »« C'est tout ce qui ne va pas ?»« Oui. » Il faut lui arracher chaque mot. Il s'est refermé sur lui-même. Nous redémarrons. Je prends de la distance avec Cyrano et demande à Loukman de ne pas brusquer Franck. Quelque chose ne va pas et il ne nous le dit pas. Ne le brusque pas. Il semble avoir peur de s'exprimer. Loukman est très impulsif. Avant de devenir aveugle, il suivait une formation militaire. Volontaire, il ne se laisse pas abattre. Quand c'est nécessaire, il puise les ressources nécessaires au bout de lui-même. Je peux lui dire. Encore 10 coups de pédale et nous sommes en haut de la côte. Je sens alors une nouvelle impulsion pour nous aider à vaincre les derniers mètres. Il n'abandonne jamais. Franck est tout le contraire. Nous le découvrons de plus en plus défaitiste. Je peux lire sur son visage, je n'y arriverai pas. Les 60 kilomètres avalés ce jour-là ne se font pas sans mal. De colline en colline, longeant un massif montagneux, nous atteignons Banté. L'hôpital est situé à l'entrée de cette ville de brousse. Un doute me tracasse depuis quelques heures. Ne serait-ce pas d'une crise de paludisme que souffre Franck ? Nous voulons en avoir le cœur net. Nous entrons dans le bâtiment dénommé consultation. Une infirmière nous fait patienter. Les locaux, le personnel nous inspire plus confiance que ce matin. Franck est ausculté. Le médecin revient nous voir. Il souffre d'une grosse fatigue. Je vais lui administrer un sérum afin de le remettre sur pied. Nous retrouvons Franck dans un dortoir de l'hôpital, allongé sur un lit avec une perfusion. Sur la poche, remplie de liquide, on peut lire « sirop de glucose ». Il se sent un peu mieux. Son traitement semble plus psychologique qu'autre chose. Peu confiant, le docteur rencontré ce matin, j'en profite pour obtenir une autre consultation. Cette fois, on me prend le pouls, on inspecte ma gorge et mes oreilles, et je dois déposer un échantillon de sel dans une petite boîte d'allumettes. Technique. L'analyse des sels confirme une amibiase. Je dois continuer à prendre les cachets de flagiles. Je retrouve Jean-Christophe et Loukman. C'est bien une amibiase. Je dois continuer mon traitement. Comment va Franck ? Il s'est endormi. Je pense que nous avons fait de trop grandes distances et qu'il a eu du mal à s'y habituer. Loukman est indigné. Je ne suis pas d'accord. Nous respectons l'itinéraire mis en place. C'était à lui de nous dire qu'il n'était pas capable. Ce n'est pas de sa faute. Il faut le laisser se reposer et on en reparlera avec lui ensuite. Jean-Christophe va se reposer. Je sors mon journal de bord et me mets à écrire avec Loukman. Une fois que nous avons rédigé le compte-rendu de la journée d'avant-hier, je me remets au compte burkinabé que je n'ai toujours pas terminé. Loukman m'interroge. Pourquoi écris-tu un compte ? Depuis le Maroc, j'ai pris l'habitude d'imaginer des petites histoires à partir des aventures vécues dans chaque pays. Ce sera ma façon à moi de raconter ce voyage à mes enfants et petits-enfants, si j'ai la chance d'en avoir. Tu peux m'en lire un ? Je lui lis le conte marocain, l'Oud du Toubkal. Ses yeux me fixent. Il écoute attentivement. Je le sens s'évader progressivement. À la fin, il me regarde et me dit « J'ai pu participer au Jab'af au Maroc. Tu m'as fait découvrir ce pays d'une autre façon, merci. Tu peux me lire les autres contes que tu as écrits ?» Je poursuis avec le conte mauritanien, « Deux princes au milieu du désert ». Au fur et à mesure que je lis, je n'arrive plus à mettre en scène les personnages. Un nœud se forme dans mon ventre. J'ai envie de vomir. J'ai la tête qui tourne. Je me sens de moins en moins bien. Il le remarque. « Tu ne te sens pas bien ?»« Non, désolé, je ne peux pas continuer. » J'essaye de m'allonger. Ça n'arrange rien. Nous retournons dans la salle des consultations. Le médecin prend ma température. Je n'ai pas de fièvre. Je lui demande si cela est lié à mon amibiase. « C'est possible. Avez-vous pris vos cachets de flagyle ? Il y a quelques heures. Je dois en reprendre ? Essayez. » J'avale de nouveau les deux comprimés. Je continue à me tordre de douleur sur la chaise. Je me sens au plus mal. Il revient avec un gros livre à la main, le Vidal, l'annuaire des médicaments. J'arrive à lire sous l'entrée flagile, effets secondaires fréquents, nausées, vomissements, crampes au niveau de l'estomac, maux de tête, convulsions, vertiges. Je me rends compte que je lis une description de mon état actuel. Ces cachets me rendent plus malade que je ne l'étais. Je réalise aussi que je viens d'en reprendre deux. Les heures passent, je ne sais plus comment. Je me souviens d'un banc d'hôpital, je me souviens que je m'allonge, me relève, me courbe, change de position. Je cherche la posture qui soulagera mes nausées et cette tête qui tourne. Je finis par m'endormir. Au réveil, je me sens vidé de toute force. Ma tête va mieux et je n'ai plus de nausées. Les effets du flagyle se sont estompés. Loukman et Jean-Christophe ont dormi aux côtés de Franck. Il va mieux. Sa perfusion a été débranchée. Je suis heureux de le retrouver. Bah, mon vieux, on est dans un bel état tous les deux. Dieu a voulu que ce soit ainsi. L'homme propose, Dieu dispose. Tu sais, j'ai du mal à comprendre pourquoi Dieu a voulu nous mettre dans cet état. C'est comme ça. Nous ne maîtrisons pas ses projets. L'homme n'a pas d'autre choix que de s'en remettre à Dieu. Ce qu'il dit est beau. Dans le fond, je crois qu'il a raison. Il me semble que l'espèce humaine est caractérisée par un désir de maîtrise de soi, de son environnement et de ce qui va arriver. Notre voyage est tout l'inverse. Nous vivons dans la dépendance les uns des autres, dans la dépendance des rencontres que nous faisons. sans jamais savoir de quoi sera fait demain. Je me rends compte aujourd'hui que nous dépendons aussi d'une force qui nous accompagne, d'un mystère incompréhensible. Selon Franck, nous devons accepter et accueillir cette épreuve. C'est quelque chose que j'ai du mal à accepter. Accepter les épreuves, ok, mais je ferai tout pour les surmonter et repartir. J'aime vivre dans l'action. Franck est beaucoup plus contemplatif. Jean-Christophe propose. On va se prendre un petit déjeuner et discuter de la suite de l'aventure ? Franck se lève pour la première fois de son lit. Il a l'air en bonne forme. Lookman ne cache pas son désir de repartir en tandem rapidement. Je présente la situation. Nous avons trois possibilités. Terminer le parcours tel que prévu, le raccourcir ou rentrer à Cotonou en taxi-brousse. Lookman répond vite. Nous pouvons faire ce que nous avions prévu. Nous sommes tous en forme désormais. Jean-Christophe est plus prudent. Nous sommes partis trop vite, trop de kilomètres en peu de temps. Nous avons mis la barre trop haut. Nous devons revoir nos ambitions à la baisse. Sors la carte. Nous pouvons éviter par à-coup et redescendre à Savalou. De là, prendre la direction de Dassa, Zangadado, Pobé, Porto Novo et Cotonou. Cela nous permettra de rouler un peu moins chaque jour. Je suis d'accord avec lui, dis-je. Cette solution me paraît plus sage. Franck ne dit rien. Lookman ne cache pas son dépit. Paracou, c'est ma ville. Je veux vous la faire découvrir. C'est un honneur pour moi d'y arriver en tandem. La bouillie de mille nous est servie. Franck prend enfin la parole. Je suis désolé. Je ne peux pas continuer avec vous. Il parle doucement avec son air résigné. Lookman s'emporte. Franck, je ne peux pas accepter ces paroles. Nous sommes les premiers au Bénin à pouvoir piloter des tandems. C'est un événement important qui marquera notre carrière sportive. Nous devons rentrer au centre de Cotonou la tête haute, fiers de ce que nous venons d'accomplir. Si nous nous arrêtons ici, les gens vont rire de nous, ils vont se moquer. Tu n'as pas le droit de nous lâcher. L'homme propose, Dieu dispose, je suis désolé, je ne peux pas. Franck s'est enfermé dans une sorte de mutisme, il ne dit presque rien. Il ne nous laisse pas le choix. Jean-Christophe et moi tentons de le faire parler, expliquer ses raisons en vain. Pour la première fois, nous devons prendre une décision d'équipe sans avoir le choix. Franck s'est décidé seul. Nous devons accepter son choix et en assurer les conséquences tous les quatre. Jean-Christophe et moi sommes déçus, mais ne pouvons le montrer. Nous trouvons dommage de nous arrêter ainsi, mais nous ne pouvons aller contre la volonté de Franck. Comme en montagne, une équipe doit suivre le rythme du plus lent. Nous devons tempérer Lookman. Il en veut à Franck de le laisser tomber. Nous restons à banter la journée pour nous laisser le temps de partir et de changer d'avis si possible. Lorsque le taxi-brousse arrive, nous n'avons plus le choix. Les tandems sont hissés puis arrimés sur le toit. Nous nous asseyons sur les sièges. L'aventure vient de se terminer.